Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour, heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau point de mire qui va nous permettre d'aller à la découverte du trophée du capital humain 2010. Je reçois le président Fabrice Lacombe, qui est le porteur de cet événement. Bonjour, président.
Bonjour.
Et le philosophe Charles Pépin, dont les travaux portent en particulier sur les politiques de rétribution.
Bonjour.
Messieurs, bonjour. Merci d'avoir pris sur votre temps pour venir à Canal Académie. Alors, je rappelle que ce trophée est placé sous le parrainage de Christine Lagarde, ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi. Le trophée du capital humain 2010 a été créé en 2009 par Michael Page et Le Monde, avec des partenaires de premier plan, HEC, MICEO, la NDRH, qui est de l'Association des directeurs de ressources humaines, Deloitte et Le Point, Moster et Taleo. Je n'en oublie pas.
Hein. Ils y sont tous.
Ils y sont tous. Donc ce prix sera décerné le 8 juin prochain lors d'une cérémonie prestigieuse présidée par Yves Thibault de Silguy, qui est le président du conseil d'administration de Vinci, et qui préside l'entreprise qui a été lauréate lors de la précédente édition.
Tout à fait, lors de la première édition 2009.
Alors, avant de rentrer donc dans le sujet, je voudrais qu'on commence par des éléments de contexte, et je me tourne d'abord vers le président Lacombe pour lui dire brièvement de nous présenter son organisation. Certains d'entre nous connaissent, j'imagine, mais ça ira peut-être encore mieux lorsque vous nous l'aurez présenté.
Oui, alors on n'est plus ça pour parler du trophée du capital humain.
Absolument. Mais...
puisque vous m'en offrez la possibilité, j'ai envie. Donc, Michael Page, 350 consultants en France, premier acteur du recrutement dans le domaine des cadres, middle et top management, comme le disent les anglo-saxons. Intervention recrutement aussi bien dans les domaines permanents, à savoir les CDI, que dans le monde de l'intérim management. Voilà pour faire concis et court, et on fait partie des tout premiers groupes de recrutement mondiaux, et notamment leader en Europe.
C'est combien de salariés ou
donc
de...
4000 salariés dans le monde.
Dans le monde, d'accord.
Donc ce qui est une grosse PME, mais dans le monde du recrutement, c'est un effectif particulièrement important, oui, avec plus de 3000 consultants.
D'accord. Un mot sur votre parcours, à vous
Un parcours un peu atypique, comme on aimerait finalement en voir peut-être plus souvent en France comparativement au monde anglo-saxon. Donc je suis ingénieur de formation. Et j'ai démarré en pleine crise en 93-94 ma carrière dans le monde de l'audit financier où j'ai appris plein de choses parce que je n'y connaissais rien. Et c'est deux ans après que j'ai basculé dans le monde du recrutement des financiers. Et petit à petit, j'ai fait mon chemin chez Michael Page où je suis depuis 16 ans maintenant.
Alors, vous êtes le président de l'entité
Je m'occupe de l'entité française qui regroupe les 350 consultants dont on parlait tout à l'heure. Et j'ai également dans mon périmètre de responsabilité une partie plus scandinave, à savoir la Suède. Et nos équipes qui s'occupent du recrutement sur le continent africain.
Bien, alors on va en venir au cœur du sujet. Avant, je passe la parole à notre philosophe Charles Pépin.
Merci.
Qui, lui, donc, est un auteur, un romancier, un enseignant, et qui donc s'est spécialisé sur les politiques de rétribution. Entre autres, j'imagine que votre champ de réflexion est beaucoup plus large.
Disons que, voilà,
quelques mots sur votre parcours, etc.
Mon parcours est aussi un peu atypique puisque je suis d'abord diplômé d'HEC et j'étais d'abord dans cette voie-là avant de tourner vers la philosophie, donc en effet. Et d'où aussi mon intérêt pour les questions de l'entreprise, du capitalisme, de la rétribution, avec un œil philosophique. Voilà, donc nous, on s'est rencontrés à l'occasion du trophée du capital humain et c'était un des thèmes mis en avant par les organisateurs. Et donc voilà, donc j'ai préparé un petit peu de travail philosophique sur ce sujet, très intéressant et pas vraiment défriché philosophiquement.
D'accord, alors nous allons y revenir sur les politiques de rétribution. Avant toute chose, Président, vous pouvez donc nous donner l'économie de ce trophée du capital humain, quels sont ses objectifs, sa raison d'être.
Alors, c'est une idée, entre guillemets, un peu folle qui est née en pleine tourmente financière, donc fin 2008. Où, avec le journal Le Monde, on s'est dit qu'il y avait un moment où on avait versé, avec probablement trop d'excès dans le tout financier, matière à mettre justement l'actif humain, le capital humain en valeur, et que parallèlement, il y avait des entreprises qui faisaient des choses qui se donnaient du mal pour créer, pour innover, pour inventer en matière de gestion du capital humain, et que c'était probablement à mettre en exergue, à mettre en valeur. Voilà, donc l'idée est venue presque sur un coin de table, et puis il s'est trouvé que cette idée a reçu pas mal d'échos auprès d'un certain nombre de partenaires que vous avez cités tout à l'heure, d'autres médias, d'autres entreprises qui gravitent autour des grands groupes. Et puis l'idée, c'était aussi de se dire, souvent les grands groupes lancent des idées qui sont utilisées 2 ou 3 ans après par les PME, qui n'ont pas eu forcément les moyens de les développer. Et c'était de les mettre à disposition de tous le plus rapidement possible. Voilà l'idée de départ.
D'accord. Alors, est-ce que ça ne rejoint pas aussi une autre problématique qui est celle d'une absence de reconnaissance de la valeur des ressources humaines dans la valeur des entreprises, et notamment l'entreprise cotée. Ouais. Il y a eu, je crois, une étude qui a été faite par les gens du Groupama, si j'ai bien compris, Groupama Asset Management, qui explique que d'après leurs études, etc. C'est...
Alors ça l'est, d'ailleurs, notre première édition l'année dernière est sous le parrainage de Daniel Lebeig, hein, donc président de l'IFA, et puis qui a eu exercé de hautes responsabilités dans un certain nombre de groupes, notamment bancaires précédemment, et sur des travaux qui consistent à prendre au sein des conseils d'administration, au sein plus haut niveau des entreprises, à prendre de plus en plus en compte ce capital humain, cet actif humain, et l'inscrire dans le quotidien des conseils d'administration. Donc, c'est un exemple que je donne pour illustrer le fait que oui, on n'a pas assez pris en compte, et peut-être ne prendra-t-on jamais assez en compte, mais en tout cas, il faut essayer de le faire plus, l'importance du capital humain au sein des entreprises. Et bon, je crois que là-dessus, il y a un nouveau départ qui est donné par cette crise financière où on a vu que le tout financier avait atteint ses limites. On le vérifie encore chaque jour cette année. Et qu'il y a probablement une forme de refondation à lancer. Et c'est dans cette lignée qu'en deuxième année d'existence du trophée, on a souhaité élargir un petit peu la mise en valeur d'initiative à des débats de fond. Parce qu'on était tous demandeurs, aussi bien les partenaires que les participants, de débats de fond au-delà des initiatives. Et c'est ce qui nous a amené, alors sans vouloir ménager une transition, mais c'est ce qui nous a amené à se dire, mais finalement, sur des sujets comme la rétribution, le dialogue social, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, dans un sens plus large que simplement l'intérêt des entreprises ou l'intérêt des employés, d'un point de vue sociétal, tout simplement.
Merci, donc je crois que c'est extrêmement clair. Alors, justement, vous ménagez une transition pour me tourner vers notre philosophe, Charles Pépin. Je rappelle simplement au passage que vous avez retenu dans cette édition 6 thématiques, la gestion de l'emploi, le dialogue social, les politiques de rétribution, le bien-être au travail, la responsabilité sociétale et l'engagement du personnel. Mais nous allons maintenant focaliser sur les politiques de rétribution. Alors, j'ai appris par vous que c'était Platon qui, le premier, avait parlé de juste prix.
Voilà, mais il a parlé beaucoup de choses, beaucoup vu qu'il était bon. En quête de la justice. Ouais.
Et donc, dans ce ciel des idées, qu'est-ce que vous avez retenu
pour... Alors justement, j'ai retenu la nécessité de ne plus lever les yeux vers le ciel des idées. Alors, je m'explique un petit peu. Platon a fondé la philosophie dans une quête du juste, du vrai, du bien. En fait, une quête de l'absolu et une quête qu'on pourrait qualifier de morale. Dans cette optique, si on était platonicien, on pourrait trouver un juste critère de rétribution. Et d'ailleurs, il faudrait en trouver un, et au regard de ce critère, on pourrait définir une juste rétribution. Le problème, c'est que le monde dans lequel Platon pense n'est plus le nôtre. Alors évidemment, non qu'il s'agisse du monde grec et que nous, on a changé, ça c'est évident. Mais c'est plus l'autre parce que lui, il s'intéressait à un monde des idées, c'est-à-dire à un monde où il y aurait des vérités éternelles qu'il faudrait d'abord contempler pour pouvoir ensuite définir comment vivre ici-bas, comment payer les gens, comment récompenser le travail, comment estimer la valeur de l'amour. Tout ça, les yeux fixés au ciel des idées. Alors pour l'instant, on est un peu loin des politiques des DRH, mais je vous explique le rapport. Le rapport, c'est que Platon a eu Aristote comme élève et qu'Aristote s'est opposé à Platon sur tous les points, et essentiellement sur le point de dire que dans le monde de l'action humaine, le monde des affaires humaines, et on peut entendre affaires aux deux sens, il ne faut pas chercher la justice, le bien universel. On est obligé de tâtonner dans un effort d'ajustement permanent parce qu'il n'y a pas un critère du juste, pas un critère de la juste rétribution, mais plusieurs, et qu'à partir du moment où il y en a plusieurs, leur rencontre crée du hasard. Et au sein de ce hasard, eh ben on ne pourra jamais être dans la justice ou la vérité. Alors ça veut dire que concrètement, qu'est-ce qu'une juste rétribution ? Ben on peut quand même avoir différents critères. Est-ce que c'est ce que ça coûte aux travailleurs ? Est-ce que c'est ce que ça apporte à la société ? Est-ce que c'est l'intuition, le génie, le travail, le labeur ? Voilà. Mais que le regard aristotélicien qu'on veut substituer au regard platonicien, c'est un regard qui est celui de l'éthique et qu'on oppose au regard moral. Le regard moral, c'est il y a un bien et il y a un mal, et donc il y a une juste rétribution. Et ce n'est pas adapté à notre temps changeant et complexe. Le regard de l'éthique, c'est un regard où on fait le deuil du juste, de l'absolu, mais on n'est pas relativiste pour autant. Et on essaye de faire au mieux, de s'ajuster en permanence au monde mouvant, et effectivement de prendre en compte une grande multiplicité de critères. Mais encore une fois, dès qu'il y a plusieurs critères, eh bien, leur rencontre crée de l'imprévisible. Et dans cet imprévu, eh bien, il ressort plus de l'art que de la science de rétribuer les hommes. C'est-à-dire que c'est moins scientifique qu'une qualité intuitive. Alors évidemment, c'est un conseil un peu vague à donner au DRH, mais néanmoins, c'est une direction de travail.
Mais alors, est-ce que la juste rétribution aussi ne fait pas tout simplement appel, au-delà de la philosophie, au bon sens ? Lorsque l'on voit qu'il y a des écarts de rétribution, quelle que soit la valeur de la contribution, qui vont de 1 à 400, qu'est-ce que dit le philosophe par rapport à ça ?
Plusieurs choses. C'est que, est-ce qu'une différence de degré est une différence de nature ? Voilà. De 1 à 400, c'est une différence de degré.
Ouais.
De 1 à 200 aussi. De 1 à 20 aussi. Du point de vue moral, c'est aussi choquant une différence de 1 à 20 qu'une différence de 1 à 400. C'est comme quand il y a un tremblement de terre et qu'on compte les morts dans une sorte d'ivresse quantitative et le bilan change toutes les demi-heures. Il y a 200 morts, 222, 247. Du point de vue moral, c'est que c'est un mort qui est choquant. 227, 247, c'est aussi choquant. Donc, on a un vrai souci avec cette question du quantitatif. Moi, je pense que, en fait, la différence de degré passer un certain seuil quantitatif devient une différence de nature. Donc effectivement, avez raison, il faut trouver le bon seuil. Le PS proposé il y a un mois, 1 à 20, sûrement trop petit. 1 à 400, c'est sûrement trop grand. Et bien ce que je suis en train de dire là, le fait qu'il faille trouver l'espèce d'échelle supportable, acceptable par le peuple, par les médias, par l'idéologie dominante, acceptable par beaucoup de personnes différentes, c'est ça être dans le monde de l'éthique. C'est assumer un raisonnement de ce type, où il n'y a pas de valeur absolue de la juste rétribution, mais oui, il faut essayer de limiter la casse aussi du point de vue de la réception populaire de la chose, en trouvant un écart acceptable. Non pas moralement acceptable, mais socialement acceptable, médiatiquement acceptable, et acceptable ici et pas ailleurs, et ici et pas demain. Donc tout ça change tout le temps.
Oui. D'autant qu'une des difficultés, c'est que ce fameux écart de 1 à 400 que tout le monde reconnaît, il repose sur une double situation. La première, c'est que 98% des Français, si on prend le cas de la France, est situé dans un écart de 1 à 20 et qu'il n'y a simplement que 2% d'autres contributeurs rétribués qui sont, eux, qui créent l'écart de 1 à 400. Donc, il y a aussi, là aussi, un aspect de degré. Mais enfin, on ne va peut-être pas trop poursuivre sur ce sujet. Le président, l'idée, c'est donner envie à nos auditeurs de suivre de au plus près le trophée du capital humain et de ne pas de leur donner toutes les réponses. D'ailleurs, on peut convenir que lorsque l'on connaîtra les lauréats, eh bien, nous vous recevrons ici pour peut-être avec le lauréat pour lui dire un petit peu ce qu'il pense, lui, de l'actualité sur le sujet.
Avec grand plaisir.
Alors, un complément, cher président, sur le trophée. Donc, le trophée aura lieu le 8 juin.
Complètement. Hein, on est sur une manifestation qui est particulière dans le sens où on n'est absolument pas sur une manifestation, sans que ce soit péjoratif, hein, mais à connotation marketing. On est avec l'ensemble des partenaires depuis le début, avec un travail, comme on vient de le montrer, sur la base des échanges qu'on a eu avec Charles Pépin, sur le fond. Hein. Et donc la cérémonie en elle-même traduit ces travaux sur le fond avec un exposé par les intéressés de chacune des initiatives qu'on a retenues, de façon à ce que chacun des DRH et représentants de groupe présents dans la salle puisse la mettre en application s'ils le souhaitent au sein de leur propre entreprise. Et pourquoi pas poser des questions à chacune des personnes qui viendra présenter l'initiative qui a été retenue sur chacune des thématiques sur lesquelles nous travaillons, tout en sachant qu'on admet fort bien qu'on ait des thématiques à retenir sur chacun des items. Pourquoi je dis ça ? Parce que dans la foulée de la démarche de fond du trophée, l'idée est non seulement de présenter des réalisations très concrètes, mais qui ont aussi été mises en place et ont fait leur preuve en entreprise. Donc, dans le cadre du process du trophée, on s'attelle non seulement à remarquer ces initiatives, mais à vérifier en interrogeant des comités de groupe, en interrogeant des personnes en filiale, des dirigeants opérationnels, que ces initiatives qu'on va présenter, qu'on va mettre en exergue, sont bien des succès et ont bien été réellement concrètement mises en place. Je crois que c'est important d'insister sur ces aspects.
D'accord. Alors, peut-être un dernier mot et peut-être une façon de lever le voile un tout petit peu sur ce trophée. Est-ce qu'au moins vous avez respecté la parité ?
Alors, dans le jury, elle n'est pas parfaite, mais elle est bien réelle, elle est bien présente.
Et dans les nominés ?
Et dans les nominés, alors ce sont les entreprises en fait, hein,
ouais.
Représentées par leur direction des ressources humaines,
oui,
donc soit le DRH groupe.
Ouais.
Donc,
mais c'est l'entreprise, ce n'est pas le DRH en tant que tel.
Non, ce n'est pas le DRH ou la DRH,
oui, hein,
parce qu'on a la chance d'avoir des DRH à la fois masculin et féminin
au sein
des grands
groupes. Ma question valait uniquement que pour le jury.
Exactement. Et on n'est pas exacte parité, mais on a les femmes qui sont représentées en nombre plus que significatif. Et On espère bien tendre l'année prochaine vers la parité. Ça fait partie de nos objectifs.
Oui. C'est le grand sujet du jour, vous le savez.
Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Voilà.
Donc, écoutez, messieurs, il me reste à vous remercier pour cette argumentation, cette présentation donc, du Trophée du Capital Humain, qui, je le rappelle, se tiendra le 8 juin prochain. À quel endroit et de quelle heure à quelle heure,
donc,
président ?
On sera à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris,
d'accord,
qui nous accueille. Et on va démarrer la présentation des initiatives à 17h. On a une première partie donc, de 2h qui est la présentation de ces initiatives, et puis une deuxième partie qui est la remise du trophée au gagnant, en fait, hein, qui sera décidé par le jury. Et en parallèle, toujours dans cette démarche de fond, on présentera un sondage IFOP qu'on a commandé sur la perception de la gestion du capital humain par les salariés des grands groupes, à savoir les entreprises de plus de 1500 personnes en France. Et là, on espère aussi apporter un éclairage à tous ces dirigeants et à nous-mêmes, hein, d'ailleurs, qui viendront assister à cette cérémonie. On ne joue pas forcément la sécurité, hein, puisque quand on tend le micro aux salariés, tout n'est pas rose, loin de là, surtout dans la conjoncture actuelle. Mais justement, ça participe à la démarche de fond du trophée, qui est d'éclairer, mais de façon exhaustive et non pas subjective.
Eh bien, chers amis, c'était donc notre rencontre avec le président Fabrice Lacombe et le philosophe Charles Pépin, dans la perspective du Trophée du Capital Humain qui se tiendra le 8 juin prochain, donc à la Chambre de commerce de Paris, si j'ai bien compris.
Exactement.
Et donc nous convenons de vous retrouver lorsque nous connaîtrons les lauréats pour peut-être faire un interview avec le lauréat, enfin l'entreprise lauréate. Messieurs, merci.
Merci beaucoup.
À vous. À très bientôt.
Merci. Thank you.